Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Un salaire très confortable et pourtant toujours dans le rouge. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, c'est l'histoire de ma femme d'aujourd'hui. Elle reconnaît qu'elle ne savait vraiment pas gérer son budget, ce qui va la pousser à développer Flicetti, un livre bourré d'expériences personnelles et axé sur la gestion de salaire.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Wafa Sahil, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Wafa?
Bonjour Yasmine, ça va très très bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation.
Alors, la jeune maman que vous êtes, ingénieure en mécanique de formation, s'est lancée dans des conseils en épargne, comme on dit, SGEB Chilchi.
Exactement, en fait, c'est plutôt une histoire personnelle.
Okay.
Moi, quand j'ai eu mon diplôme, quand j'ai commencé à travailler, j'avais aucune notion de tout ce qui est finances personnelles, j'en avais vraiment aucune. D'ailleurs, j'ai vécu pendant plusieurs années dans le rouge.
Oui.
Je ne savais pas du tout comment gérer mon argent, n'ayant aucun objectif financier, ni d'achat de maison, ni quoi que ce soit. Vraiment, j'étais dans le flou.
Je pense que ça parle à beaucoup de personnes, ça, en fait, vivre dans le rouge pendant longtemps. Et ça parle à beaucoup, ça parle à une personne, à votre interlocutrice aussi. Pendant longtemps aussi, j'étais dans le rouge. Parce que je ne savais pas gérer mon argent. Exactement, c'est ça. Je ne savais pas comment gérer. Pour moi,
exactement, c'était vraiment ça. Il y avait un déclic, je travaillais dans un cabinet de conseil, il était question de licenciement, et c'était vraiment un déclic où je ne savais plus, c'est-à-dire si j'étais amenée à être
licenciée,
qu'est-ce que je ferais? Franchement, c'était ça le déclic que j'avais eu.
Vous habitiez toute seule à ce moment-là? Vous avez une forme d'indépendance?
Exactement, j'habitais toute seule, je travaillais entre le Maroc et la France à l'époque, et j'avais zéro économie, je me disais que c'était les parents qui allaient, et en plus j'avais des charges, surtout crédits et autres. Donc c'était à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à lire.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'avais 26 ans.
D'accord.
J'avais 26 ans.
Ok.
J'avais 26 ans. J'ai eu mon diplôme à 23 ans. J'ai commencé à travailler un peu tôt.
Ouais.
Donc, en 3 ans, c'est impossible de continuer dans cette lancée.
Mais c'est parce c'est parce que le salaire suffisait pas à couvrir les charges, ou bien parce que justement, vous ne saviez pas comment gérer votre argent.
Exactement. J'avais un salaire très très confortable,
ouais.
Et je ne savais pas gérer mon argent. C'est pas question de revenus, mais c'était question de gestion.
Ouais.
Vraiment, c'était ça le problème. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à lire, à me renseigner, à comment gérer. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de littérature sur le sujet au Maroc. Pour avoir justement tout ce qui est avantage fiscal lié, par exemple, à l'épargne, retraite, ou lié, par exemple, au crédit habitat. Donc, je n'avais pas. Je commençais à chercher, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Vraiment un bond vers le futur, c'était pendant le confinement.
Okay.
J'ai eu cette même angoisse, l'angoisse que j'avais vécue pendant quand j'étais un peu plus jeune. Je l'ai eu parce que j'ai vu autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient cette situation, qui perdaient leur travail,
ouais.
Qui étaient dans cette situation d'instabilité financière et qui vraiment avait aussi un impact sur leur santé physique et mentale.
À ce moment-là, vous étiez en France ou au Maroc?
Non, j'étais au Maroc.
Au Maroc, installée, mariée avec un enfant.
Exactement, mariée avec un enfant. J'avais vraiment amélioré ma situation financière. J'étais devenue plus responsable financièrement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut. J'avais ce besoin aussi d'écrire, d'externaliser cette angoisse par l'écriture. Et faire un guide, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le livre Flicetti sur l'épargne, mais sur plutôt la finance personnelle de manière générale.
C'est trop mignon, Flicetti, parce que c'est Flicetna, justement.
Exactement, c'est Flicetna, c'est une façon de se rapprocher, c'est un livre qui va droit au but. Je ne suis pas dans la prose, je n'ai pas écrit un Goncourt, mais c'est un livre qui est bourré d'informations et c'est aussi tiré de mes expériences personnelles, comment moi j'ai pu améliorer ma situation. Ben voilà ce que j'ai fait, et si ça peut aider certaines.
Alors justement, certaines, parce que moi je pense que ce livre est avant tout destiné aux femmes, parce que on peut dire que Flicetti est né du constat que de nombreuses femmes n'ont jamais acquis les bonnes bases de la finance personnelle.
En fait, c'est exactement ça, parce que j'ai écrit un livre que j'aurais aimé lire.
Ouais.
Dans le livre, j'aborde aussi certaines étapes de la vie. Notamment le mariage, notamment la préparation d'un enfant. Et ça, c'est des sujets qui parlent beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes.
Absolument.
C'est pour ça que j'ai vraiment axé sur la femme marocaine et j'ai parlé de ce que je connais. Hein, en
c'est
tant que
ça.
Femme marocaine,
ouais.
Maman, c'est des étapes par lesquelles je suis passée. Et j'aurais aimé avoir ces conseils-là au préalable.
Mais moi, j'aime bien ce que je suis en train de lire à propos de l'auteur, jeune femme dans la trentaine, ingénieure de formation, mariée et maman d'un petit garçon. Wafaa Sahil a longtemps vécu à découvert. Alors justement, vécu à découvert, Bliati, pourquoi ? C'était quoi les sources ? C'était quoi, qu'est-ce qui vous amenait à dépenser ?
Alors, le premier constat, où c'était en fait le passage du statut d'étudiante à salariée. En fait, j'ai voulu faire comme les grands. J'ai voulu acheter ma propre voiture. J'ai voulu avoir faire mon shopping sans pour autant voir combien j'avais sur mon compte. J'avais envie de vivre cette vie-là la continuer, on va dire, pendant plusieurs années. C'est-à-dire que j'étais dans le déni total. Et j'avais ce besoin aussi de montrer que j'avais réussi, que j'avais eu un travail qui était très bien payé, sans pour autant que ça me procure vraiment un réel épanouissement. Parce que quand je dépensais mon argent, c'était un plaisir éphémère. Mais à la fin du mois, quand j'étais à découvert et quand parfois ça m'est arrivé aussi de demander à mes parents de me dépanner, j'avais aussi cette gifle-là de mes parents qui me disent c'est pas possible, tu n'as pas de charge, tu n'as pas d'enfant et que tu n'arrives pas à dépenser ton salaire correctement, c'est pas normal. Donc,
il y a cette culpabilité aussi qu'on ressent. C'est comme une forme d'addiction.
Exactement, c'est une sorte. Et j'avais cette impression que j'étais dans un gouffre et je pouvais plus m'en sortir. C'est impossible pour moi. Il y a mon salaire qui rentrait, qui était déjà découvert. C'est pas possible de sortir de. Donc autant revivre dans le déni et rester dans cette situation-là.
Et en même temps, acheter et consommer parce que ça vous permettait aussi d'exister en quelque sorte.
Exactement. À l'époque, il n'y avait pas encore vraiment l'impact réel des réseaux sociaux.
Oui.
Il y avait Facebook, mais il n'y avait pas cette instantanéité qu'offre aujourd'hui Instagram, par exemple. Mais il fallait voyager, il fallait avoir poser les plus belles photos de voyage ou autre. C'était un cercle, très vicieux parce que...
Et c'est un cirque aussi, en fait.
C'est un vrai... Oui, c'est un vrai... avec du recul, ouais. Exactement.
Mais vous savez, moi, des fois, quand j'y pense, je me dis, heureusement, mine de rien, j'aurais pas voulu avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux. Parce que peut-être que j'aurais pas eu la maturité nécessaire, suffisante, le recul suffisant pour me dire non, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Je veux pas être influencée comme ça. J'ai le droit de ne pas être influencée comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, vous êtes plus jeune que moi, vous avez 35 ans, moi j'en ai 41. Mais comme vous dites, vous non plus, vous n'avez pas vraiment vécu dans les réseaux sociaux à cet âge sensible.
Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que justement, il y a une lacune sur tout ce qui est gestion financière dans le cursus scolaire. On ne sait pas qu'on doit épargner, combien, comment gérer son budget. Certes, il y a vraiment des initiatives qui sont saluables aujourd'hui et qui existent, mais à notre époque, moi quand j'étais au lycée et quand j'étais étudiante, je ne savais pas quel est l'objectif, quel est l'intérêt derrière un budget, un budget. Quel est l'intérêt d'avoir tout ce qui m'importait, c'est l'instantanéité, c'est c'est d'avoir les meilleurs, n'importe quoi, une paire de chaussures que je voulais, le sac que je voulais, me parader comme ça devant tout le monde, et qu'à la fin, mon angoisse restait, on va dire, intime, et elle n'était pas exposée. Donc, c'est ça l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est que on montre une facette qui est très glamour, et qui pousse surtout les jeunes à la consommation, à la surconsommation. Je ne parle même pas aussi de tout ce qui est haul et tout ce qui est tout ce qui pousse les jeunes à acheter davantage. Mais en contrepartie, on n'explique pas aussi que vous pouvez avoir ça, mais en ajustant certaines choses, en ajustant votre budget, en prévoyant cette dépense-là. Et aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux accentuent cet aspect-là, et c'est vrai que j'aurais jamais aimé être il y a 20 ans, vivre 20 ans dans cette époque-là. C'est sûr que ça serait encore plus difficile pour moi de m'en sortir.
Absolument. Alors, votre conseil principal, justement, Wafa, par rapport à la formation aux plus jeunes, parce qu'on voit sur votre page Flicetti, que, sur Instagram, que vous en parlez beaucoup à votre enfant également.
Exactement. En fait, justement, il y avait, quand j'étais plus jeune, j'avais eu la chance d'avoir des parents qui ont été très transparents avec nous sur leurs finances, mais pas assez transparents dans le sens où on n'avait pas le droit à un non. Tout ce qu'on voulait, on pouvait l'avoir, même si on voyait aussi que nos parents, c'était des fonctionnaires qui sont quand même militer, batailler pour nous servir tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est des questions que je me pose en tant que maman. Mon enfant, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il sache comment gérer son argent dès son plus jeune âge. Aussi, ne pas avoir honte de dire non, c'est pas dans mes moyens, parce que dans la réalité, c'est le cas. On peut pas tout s'offrir et on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Donc, il y a cette frustration qu'il faudra lever dès le plus jeune âge, et que l'argent ne soit pas un tabou, que pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut, la première chose, c'est vraiment de se lever, de ne plus se voiler la face et d'affronter sa situation financière, vraiment de mettre à plat qu'est-ce que j'ai, combien je gagne, où je dépense mon argent, et ne pas hésiter à faire du tracking de ses dépenses, et avoir un budget. Parce que franchement, le budget, c'est ce qui va permettre d'avoir un équilibre tout au long de l'année, mais aussi d'intégrer dans ce budget la partie plaisir, la partie restaurant.
Ça vous a permis justement de vivre comment aujourd'hui ? De faire plus de choses ou moins de choses ?
Plus de choses, franchement, plus de choses, mais aussi de manière plus réfléchie. C'est-à-dire qu'avant, quand je prenais mon ancienne moi, qui déteste cuisiner, je déteste cuisiner toujours, mais je mangeais tout le temps en restaurant où je me faisais livrer, sans pour autant être consciente de l'impact financier que ça avait. Aujourd'hui, je me fais toujours autant plaisir, mais je le fais en famille. C'est-à-dire qu'au bureau, au lieu de me prendre, je ramène soit ma nourriture avec moi, mon déjeuner, soit je mange dans la cantine qui est subventionnée en partie par mon employeur, au lieu de me faire livrer et de dépenser plus, sans pour autant avoir l'impact, on va dire,
plaisir,
qui est
exactement.
Qui est derrière. Donc c'est vraiment dépenser de manière plus consciente et vraiment d'axer qu'est-ce qui me fait réellement plaisir. Voilà, c'est des choses qui me font plaisir, je vais les garder. Et les choses, aujourd'hui, le shopping ne me procure plus autant de plaisir qu'avant. Donc je ne fais pas beaucoup d'achats shopping. Par contre, si j'ai un coup de cœur, j'attends mes soldes pour l'acheter. Donc, c'est vraiment avoir ces petits réflexes. C'est vraiment un mécanisme qu'on débloque dans son cerveau et qui nous permet pas de vivre dans la frugalité, parce que c'est pas le cas.
Est-ce qu'on te traite pas aujourd'hui ? Alors, avant, tu étais une grande dépensière. Est-ce qu'aujourd'hui, on te dit pas est devenue radine ?
Pas du tout.
Non.
Alors là. Pas du tout. C'est vrai que le confinement et la période Covid a vraiment aidé. Mais moi, je suis une grande voyageuse, j'adore voyager. Et c'est vrai que je préfère garder mon argent pour me faire un beau voyage, sans pour autant acheter derrière. Mais mes dépenses sont plus programmées. C'est-à-dire, je ne suis plus dans la spontanéité, allez, on fait un voyage tout de suite. Non, 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 non. Je prévois mes voyages, j'achète mes vols vraiment dans le temps, Et ça, c'est quelque chose qui a changé en moi, alors qu'avant, ce n'était pas le cas.
Alors, peut-être pour finir, cette histoire aussi de gestion de l'argent, de propriété, de salaire, pas toutes les femmes ont le luxe aussi de pouvoir gérer leur argent, de pouvoir être indépendante financièrement, même lorsqu'elles travaillent.
Oui, alors j'en suis absolument consciente. Déjà prendre le devant, déjà d'avoir une certaine stabilité financière. Aujourd'hui, on a nos mamans, nos grands-mères qui ne travaillaient pas et qui avaient des revenus, qui savaient gérer leur argent en fonction de ce que leur mari, leur conjoint leur donnait. Donc, ce n'est pas question de revenus, mais c'est plutôt question de gestion d'argent. C'est-à-dire que mon père, c'est un exemple qu'il m'avait donné quand je venais de travailler. J'avais une proposition de salaire qui ne me convenait pas. Et il m'avait dit à l'époque, écoute ma fille, tu peux toucher 5 000 dirhams et que ça ne te suffit pas. Tu peux trouver 50 000 dirhams, ça ne te suffira pas. Mmh. C'est pas combien tu touches qui est le plus important, mais qu'est-ce que tu en fais et combien tu gardes de cet argent-là. Et c'est vraiment la notion de gestion. L'idée n'est pas de combien la personne gagne, mais comment elle arrive à le gérer.
Absolument. Wafa, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous et à très vite.
À très vite. Merci beaucoup, Yasmine. Très bonne journée.
Au revoir. Alors, consommer malin, consommer efficace et consommer aussi citoyen et marocain. Ça, c'est possible. Je vous propose justement de revenir sur une interview que j'ai réalisée le 17 novembre dernier avec Yasmine Erghibi. Yasmine qui a fondé avec sa maman la marque Doum pour la femme marocaine. C'est une marque, une philosophie, une mission pour s'entraider entre femmes. C'est comme ça que Doum voit le jour dans la région de Marrakech. Alors Yasmina et sa maman sont à l'origine de Doum for Women, une coopérative féminine. Mais plus que cela, il s'agit d'une véritable leçon de vie et de résilience pour elles et pour nous. Alors ces femmes de la coopérative Doum for Women, qu'est-ce qui vous marque le plus en elles? Qu'est-ce qui vous inspire le plus en elles?
Ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment leur résilience. C'est pas pour vous mentir, là en ces temps de Covid, c'est difficile pour tout le monde, c'est encore plus difficile pour elle. Mais la réalité est très dure. On a chaque jour à peu près 5 à 10 familles qui viennent des villages alentours. Donc on a chaque jour à peu près 5-6 femmes qui viennent des villages alentours, qui veulent venir apprendre, qui veulent faire partie de la coopérative, qui sont demandeuses de travail, de revenus. Et effectivement, on est très heureuse d'avoir une structure pour pouvoir toutes les accueillir. Mais moi, ce qui m'inspire le plus chez elles, c'est vraiment leur résilience et leur volonté de jamais lâcher, d'aller toujours plus loin pour s'en sortir.
Alors, cette coopérative, c'est une vraie bouée de sauvetage pour ces femmes?
Oui, effectivement, c'est une vraie bouée de sauvetage parce que nous, à côté, on fait un vrai travail de prospection, de démarchage pour pouvoir toujours leur assurer des
commandes.
Un revenu stable. Et vraiment, c'est un revenu stable au travers d'un travail digne. Mm. Parce que, comme vous le savez, la plupart sont des mères célibataires ou des jeunes filles qui sont en âge d'être en études universitaires, qui n'ont pas eu cette chance. Mm. Et dont
Pourquoi ce sont des femmes célibataires, justement, vous dites pour la plupart?
Des mères célibataires.
Des mères célibataires, pardon.
Voilà, parce que il y a à peu près 40% de ces femmes qui sont mères célibataires parce que le mari n'est pas présent, la vie ne leur a pas fait de cadeau. Enfin, c'est une coïncidence, mais effectivement, c'est malheureusement une réalité.
D'accord. Et beaucoup se retrouvent abandonnés, en fait.
Voilà, exactement. Et leur mari, leur père, leur frère, très souvent, quand elles sont encore mariées ou quand elles sont, pour des jeunes filles sous la tutelle de leur père, pour la plupart, ces figures paternelles ne veulent pas que des jeunes filles travaillent on va dire, n'importe où. Mmh. Elles veulent quand même qu'elles soient encadrées. Donc là, vraiment, tout le monde est rassuré et d'être dans une structure, voilà, organisée. Et puis où tout le monde est valorisé. Mmh. Voilà.
Alors, certains pourraient trouver vos prix relativement chers parce que les sacs coûtent en moyenne, ils sont en raffia et en cuir. Coûte en moyenne 100 euros, 1000 dirhams. Qu'est-ce qui justifie justement ces prix élevés? Alors que pour nous, au Maroc, le raffia, doum, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique.
Bah écoutez, Yasmine, voilà, c'est justement parce que derrière, il y a un vrai travail de maroquinerie. Mmh. À côté de la coopérative, on a un atelier. On a un atelier de plus de 50 maroquiniers. On travaille des matières nobles. Notre volonté première est de créer un produit haut de gamme, à la hauteur des standards internationaux. Donc nous, vraiment, notre offre, on a souhaité la positionner haut de gamme pour pouvoir donner toute sa valeur justement au travail des femmes qui sont derrière. Mais là, ça tombe bien que vous en parliez. On a lancé il y a quelques mois Doum Morocco, donc c'est une nouvelle page Instagram où là les prix commencent à partir de 300-350 dirhams pour justement pouvoir élargir ces produits à tout le monde. Mmh.
Et en fait, le travail de Doum et Doum Morocco est complémentaire, mais en matière de finition, etc., le Doum qui coûte plus cher, c'est vraiment le haut de gamme, à tous les niveaux.
C'est le raffia tissé, donc qui est vraiment tissé sur des, voilà, par les femmes artisans, ça prend énormément, ça prend plusieurs jours. Mm. Donc là, c'est le haut de gamme, Doum officiel, c'est le haut de gamme, c'est notre gamme premium. Mais à côté de ça, on a Doum Morocco qui présente donc des sacs en doum, donc en feuilles de palmier avec toujours des finitions haut de gamme. Là, on ne fait pas l'impasse là-dessus, mais à des prix plus abordables.
Alors, la coopérative est financée par vos fonds propres et vous avez aussi un soutien de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. C'est bien ça?
Effectivement, Yasmine. D'ailleurs, je me permets de remercier Lamdi parce que c'est grâce à elle que le travail de ces femmes a pu s'exporter. On a fait en 2019 un voyage à New York, donc c'était une mission B2B. On a eu la chance de rencontrer des marques internationales de renom, donc qui ont été touchées
et de créer pour ces marques aussi.
Voilà, et de créer pour ces marques. Elles ont été touchées donc par notre projet social et on a eu la chance de collaborer avec l'une d'entre elles, donc une grande marque américaine l'année dernière, pour laquelle on a créé une collection exclusive de paniers en doum.
C'est ça. J'aime bien, vous dites en doum, vous dites pas en osier.
Non.
Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. En fait, voilà, le monde des fibres naturelles est tellement vaste qu'effectivement, voilà, on a tendance à tout regrouper, mais chaque fibre naturelle a sa particularité. Il y a un vrai travail derrière. Enfin, chacune a ses spécificités.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, justement? Comment vous voyez l'avenir de Doum, de ces femmes, de ce produit, de ce projet citoyen?
Ce qu'on peut nous souhaiter à toutes ces femmes d'abord et ensuite voilà, à nous, c'est de continuer à mettre en lumière leur travail et à en parler autour de nous et que leur message soit relayé et qu'on puisse les aider au maximum, comme on le fait déjà.
N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.